Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Il a commencé déjà ce matin à passer sur les cœurs, à déposer des choses très très précieuses. Je suis vraiment sûr. Donc ce matin, je vais vous parler de quelque chose qui s'appelle le rejet. Et donc la première diapo vous met dans le bain. J'ai besoin d'amour. Qui parmi vous ce matin, parmi nous, n'a pas ce besoin d'amour? On a tous ce besoin d'amour. Il est très criant. On est tous des handicapés de l'amour, je dis souvent ça. Et personne ici ne peut remplir votre cœur de l'amour dont vous avez besoin. Bien sûr, on est des canaux, chacun. Les uns pour les autres, pour apporter cet amour. Et on est des témoins de cet amour. Mais on a vraiment besoin d'amour. Et puis, vous le reconnaissez, ce petit personnage, c'est Calimero. Donc, c'est souvent tourné en dérision. Fais pas ton Calimero. Et quand on peut être attristé ou peiné sur quelque chose. Et j'aime pas qu'on tourne en dérision quelqu'un qui est triste, parce que ça correspond à quelque chose, quoi. Et alors ce petit poussin qui n'est pas de la bonne couleur, qui est triste, etc. Mais bon, il nous dit bien, j'ai besoin d'amour, quoi. Et dans le rejet, en fait, c'est tout ce manque d'amour qui, par les accidents de la vie, ont fait qu'on est amputé de quelque chose qui est le moteur de nos vies, quoi. Et donc, on a une mauvaise image de soi, un problème d'acceptation de qui on est, de ce qu'on fait. Enfin, puis bon, il y a tout un mécanisme de trouble qui se met en route avec cette carence d'amour et qui va de l'autodestruction active, hein, comme par exemple de l'anorexie, jusqu'à des maux qui sont dégradant pour nous. Il y a aussi toutes les notions de comparaison. On va s'en comparer aux uns ou aux autres. Mais c'est un mensonge, tout ça, quoi. Nous sommes chacun d'entre nous uniques. Vous savez que vous êtes unique? Regardez-vous. Vous êtes unique. Vous pouvez aller voir la plus belle œuvre dans le plus grand musée du monde et passer du temps devant elle. Peut-être que vous allez payer cher pour voir cette œuvre. Peut-être même que vous avez beaucoup d'argent, vous allez acheter cette œuvre. Ben, c'est rien à côté de chacun d'entre vous. Vous êtes unique. Mais ça, on l'a oublié. Et le malin, il est malin pour véhiculer un message qui est un message de destruction. Lui a été rejeté auprès de Dieu, vous le savez. Et donc, il passe ce message-là et ce mensonge qui peut descendre dans nos cœurs et faire vraiment du mal. Et donc, le petit Calimero, ben, il est à notre image. Hein, c'est pas trop étonnant que ce personnage soit populaire, parce qu'il correspond à quelque chose. Donc, il y a, pour moi, un texte qui, pour moi, illustre très, très bien cet aspect-là, enfin, du rejet, comment ça a touché nos vies. C'est en fait donc la parabole des deux fils, enfin, j'allais dire, j'avance un petit peu, du fils prodigue. Et vous allez voir qu'il y a deux fils prodigues, et aussi il y a un fils prodigue et un père prodigue, du moins. Alors, donc, ça se trouve dans Luc 15. Alors, comme je sais que vous savez le passage par cœur, je l'ai pris en parole, dans la version parole vivante, pour éviter que vous soyez... On dit, je sais déjà, je connais déjà ces choses. On va le lire donc dans cette version. Puis il poursuivit, donc c'est Jésus qui parle. Un homme avait deux fils. Il avait bien deux fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. Et le père fait le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vend tout ce qui est à lui et part au loin dans un pays étranger. Là, il gaspille sa fortune en menant grande vie. Quand il n'a plus un sou vaillant, une grande famille survient dans ce pays-là et il commence à connaître des privations. Alors il va se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoie dans sa ferme garder les cochons. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec l'écosse de caroube que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il fait un retour sur lui-même et se met à réfléchir à sa situation. Il se dit « Tous les travailleurs agricoles de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché envers Dieu et envers toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » « Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se met donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouve encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçoit. Il est pris d'une profonde pitié pour lui. Il court à la rencontre de son enfant, se jette à son cou et l'embrasse longuement. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché envers Dieu et envers toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici pour moi, mon fils était mort, et voilà qu'il est revenu à la vie. Il était perdu, et voici je l'ai retrouvé. Et il commence à se réjouir et à festoyer. » Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. À son retour, à mesure qu'il se rapproche de la maison, il entend des gens qui chantent et qui dansent. Il appelle un jeune serviteur et lui demande ce qui se passe. Le garçon lui répond, « C'est ton frère qui est de retour, parce que ton père l'a retrouvé sain et sauf. Il a tué le veau gras en son honneur. » Alors le fils aîné se met en colère et refuse de franchir le seuil de la porte. Finalement, son père sort et insiste pour qu'il rentre. Mais lui explose. « Cela fait tant et tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Avec ça, pas une seule fois, tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des filles de joie, pour lui, tu tues le veau gras. « Mon garçon, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tout ce que je possède t'appartient. Mais il fallait bien faire une fête et se réjouir car ton frère, là, il était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et le voilà retrouvé. Amen. » Donc bien sûr, vous connaissez ce passage. Tu peux passer la diapo suivante, Givor, s'il te plaît. Et quand on regarde ces deux fils, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette famille. Et bien sûr, il n'y a pas de famille parfaite, et malgré tous les efforts qu'on peut faire les uns les autres, on fait des gaffes, il n'y a pas de famille parfaite. Et dans cette famille-là, parce que le papa, franchement, il était bon, il y a des choses qui ne vont pas. Et donc... Il y a donc ce premier passage qui dit, donc c'est le fils le plus jeune qui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Il y a une révolte, « J'en ai marre, je vais m'en aller, j'explose dans cette maison, on ne m'aime pas, où est ma part ? C'est l'aîné qui a tout, qui fait tout, peut-être, enfin, toutes ces choses peuvent tourner dans les têtes, quoi. » Parce qu'il y a souvent ces comparaisons, quoi. Moi, je suis plus petit, j'ai pas reçu ce que mon frère aîné a reçu. Et puis, il y a toutes ces mauvaises interprétations quand on est enfant. On va écouter quelquefois une parole que nos parents disent, et puis on va déduire qu'ils nous aiment pas, ou alors qu'on n'est pas celui qu'eux, ils attendaient. Et par contre, on va enfouir tout ça. On ne va jamais en parler à nos parents. Donc petit à petit, l'infection gagne et puis peut prendre vraiment de l'ampleur et puis un jour, on explose, on veut s'en aller. Et donc derrière, donc après l'épisode, le fils le plus jeune soit revenu, donc le plus âgé lui dit, il revient à la maison, hein, et après tout ce qui s'est passé, maintenant il dit, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Je suis si minable, j'ai tout raté. J'ai tout gâché. Prends-moi comme un ouvrier, comme un simple ouvrier. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et lui, l'aîné, il dit, après avoir vu tout ça, cela fait tant et tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Je suis un fils, mais je travaille comme un esclave. Lui, il sait qu'il est le fils de la maison. Quelque part, il est le second du père, mais il travaille comme un esclave. Pourquoi se considérer comme un esclave quand on est le fils aîné, quand on est avec son père à la responsabilité de cette exploitation? Tout ça, ce sont des mensonges, quoi. Mais en fait, qui impriment les vies et qui font que les cœurs, au lieu d'être souples, d'être ouverts, et que le climat familial soit bon, soit un climat d'amour, les cœurs sont fermés. Et j'ai besoin d'amour, mais si mon cœur est fermé, l'amour ne rentre pas. C'est jamais suffisant. Et donc le rejet, c'est l'inverse d'une acceptation totale. Par nos parents, bien sûr, appartenant à une famille, l'appartenance à un groupe, sentir qu'on n'est jamais accepté totalement. Il y a toujours ça qui pèse sur nos vies, quoi. Et on est toujours en recherche de plaire, de faire ceci ou de cela, de gagner l'amour. L'acceptation, c'est une loi du royaume de Dieu. Amen. Peu importe qui tu es devant moi ce matin, ce que tu as fait, d'où tu viens, peu importe, Dieu t'aime. C'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu. C'est une acceptation inconditionnelle. Le Seigneur n'a pas posé de conditions. Le mensonge s'est glissé, hein, comme je disais tout à l'heure, dans nos têtes. Et souvent, les premiers à qui on fait des reproches, c'est nos parents. Parce qu'on leur dit, tu ne m'as pas aimé comme j'aurais dû, quoi. Et puis il peut se passer aussi des choses qui font que une couche qui s'est rajoutée. Il y a des événements familiaux qui font que oui, il y a des véritables blessures. Et l'enfant du fœtus jusqu'à l'adolescence, c'est un être fragile. C'est un être en construction. Et l'exemple que j'ai quelquefois donné, c'est que le fruit d'un arbre, que ce soit le châtaignier, une châtaigne ou le gland pour un arbre, il est fragile. Quand vous en voyez à l'automne qui sont par terre, qui sont sur une route, les voitures passent et écrasent ces fruits. Mais imaginez-vous si un de ces fruits perce en terre, devient un arbre. L'arbre adulte, lui, va arrêter la voiture. La voiture va plus passer dessus. Il y a cette fragilité dans l'enfance qui est là. Et l'ennemi sait que cet état de fragilité, de vulnérabilité est là pour l'enfant. C'est pour ça qu'il y a un enjeu extraordinaire sur la vie des enfants et sur la vie des familles, quoi. Parce que les blessures qui viennent à ce moment-là, elles sont pour longtemps. Mais nous sommes créés à l'image de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr, c'est dans les versets de... Plusieurs versets de Genèse nous parlent de ce plan merveilleux, comment Dieu a créé l'homme. Et le verset 31, donc du premier chapitre, il me semble, oui, qui dit « Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. » Que c'était très bon. Dans le psaume 139, verset 14, je te loue de ce que je suis créature si merveilleuse. Un verset qu'on a du mal à entendre quelquefois. Et dans le verset 6 du psaume 8, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, l'homme. Et devant moi, j'ai des hommes et des femmes qui sont proches de Dieu dans leur conception. Et chaque fois qu'on voit un homme, peu importe où il est, qu'il soit dans une église ou qu'il soit dans une rave party, comme disait Robert, peu importe, c'est un homme ou c'est une femme, créé à l'image de Dieu. Une chose est le péché, et une autre chose est le pécheur. Le pécheur, c'est un homme, effectivement, comme moi. Et nous avons été faits de peu inférieurs à Dieu. Et Dieu a un projet merveilleux pour nous, mais un projet de résurrection. De ses blessures, de ses péchés, Jésus est venu pour qu'un jour, celui-ci, celle-là, rencontre celui qui est la résurrection et la vie. Éphésiens 1, verset 4 nous dit aussi, « En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde. » Que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Amen. Ce plan est vraiment merveilleux. Et bien sûr, nous avons commencé, nous qui sommes chrétiens, à rencontrer ces promesses de Dieu. Elles ont commencé à vivre. Mais où elles en sont ? Et souvent, la marque du rejet est encore là. On a du mal à accepter les vérités de Dieu. Cette acceptation totale, inconditionnelle, cet amour inconditionnel. Et y croire, bien sûr, c'est un péché contre Dieu. Ce n'est pas de la fausse modestie. Non, mais je ne suis pas comme ça. L'honnêteté, c'est de dire, je répète la parole de Dieu. Je n'écoute pas ce que me dit l'ennemi. Je n'écoute pas ce qu'on a pu dire sur moi. Il y a des choses, il faut retenir la vérité et pas le mensonge, vous êtes d'accord avec moi? Et quand vous trouvez la vérité dans la parole de Dieu, retenez la vérité. Et si l'ennemi a glissé dans votre tête que vous n'étiez pas du bon sexe, de la bonne taille, de la bonne couleur, je ne sais pas, que vous ne savez pas parler, j'en sais rien du tout, quel est le problème? Vous êtes un homme, une femme, unique, une beauté de la création. Unique. Donc la comparaison là-dedans, mes amis, mettez-la au placard. Hein. Est-ce que, bien sûr, il arrive que les gens qui commandent les œuvres d'art peuvent comparer une œuvre qui est meilleure qu'une autre, etc. Mais une œuvre parfaite de Dieu qui est très bonne, c'est une œuvre très bonne de Dieu. Alléluia. Et donc le rejet fait des ravages, et notamment, enfin, on s'en aperçoit forcément plus quand on se met en couple. Parce que là, ce besoin criant, j'ai besoin d'amour. Qui va répondre à ce besoin d'amour? Et bien, au début, on croit que c'est notre bien-aimé. Elle fait beaucoup. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas tout. Nous avons besoin de l'amour de Dieu. Cet amour qui a vraiment toute la dimension pour remplir notre cœur, pour guérir toutes les blessures. Et la notion d'appartenance, elle va toujours rester. C'est quelque chose qui fait partie de l'homme. Et si on n'appartient pas à une famille, à un groupe, on peut appartenir à autre chose, hein. Les bandes, c'est un groupe. Des clans, des bandes de délinquants, c'est un groupe. Ils aiment se retrouver ensemble. On fuit d'un côté, mais ça nous rattrape, c'est un besoin qu'on a en nous. Donc il y a une mauvaise compréhension de forcément les vérités de Dieu et des vérités peut-être que nos parents ont mis dans nos cœurs et on n'y croit pas. Le verset 13, toujours de notre passage donc de Luc 15, « Quelques jours plus tard, le cadet vend tout ce qui est à lui et part au loin dans un pays étranger. Là, il gaspille sa fortune en menant grande vie. » Donc lui essaye un autre système, il va tout donner pour se faire accepter. Et on peut donner de l'argent, du temps, du travail, un service pour se faire accepter. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas acheter l'amour ni l'amitié, ça ne s'achète pas. Bien sûr, c'est important d'aider ceux qui sont autour de nous, de donner de l'argent si c'est quand il y a besoin, à nos enfants par exemple. Mais c'est de savoir quelle motivation il y a derrière, quoi. Mais si on donne pour se faire accepter, si on donne pour se faire aimer, ça ne marchera pas. Le verset 29, qui est donc là, parle du deuxième fils, donc du fils aîné. Pas une seule fois, tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Le verset 31, mon garçon, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tout ce que je possède t'appartient. Je reparlerai tout à l'heure de ça, c'est un verset qui m'a touché profondément. Tu es constamment avec moi et tout ce que je possède t'appartient. On n'a pas ouvert les yeux. Mais ce fils aîné, peut-être je ne demande rien, et peut-être c'était son raisonnement. Je ne demande rien parce que j'ai peur qu'on me dise non. Je ne mérite peut-être pas. Ah, la notion du mérite. Il faut peut-être que j'en fasse encore plus. Ou à l'inverse, je ne vais pas mendier. Ah non, je ne vais pas me plier à ça. S'il n'a pas compris que je mérite, franchement, quoi. On ne reconnaît pas mon travail, quoi. Ça vous est étranger, ces remarques ? Non, c'est des choses qui existent, ça. On doit le reconnaître. Donc on va continuer. Mais qu'est-ce qui nous sépare donc de l'amour de Dieu ? Il y a vraiment un passage qui peut nous nourrir, nous guérir. C'est Romains 8, qui est extraordinaire. Et j'ai pris deux versets, le verset 15 et le verset 16. Mais vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père, Papa, tu es là !» L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Écoutons l'Esprit Saint nous dire « Tu es mon enfant !» Et Dieu le premier a désiré notre existence bien avant nos parents. Même si on nous a dit que nous n'étions pas, ou si nous avons attendu que nous n'étions pas un enfant désiré. Ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était « Lui vous a désiré. Il a permis que vous veniez sur terre. » Et je vous ai dit, toutes ces paroles, souvent, nous ont blessés dans l'enfance, au moment où nous étions le plus fragiles, quoi. Et nous avons du mal à concevoir l'amour inconditionnel de Dieu. On a du mal à comprendre ça. Et donc, qui donne Jésus, son Fils, sans péché, pour ceux qui le clouaient à la croix. Il meurt, pour ceux qui crient contre lui, qui le clouent à la croix, qui se moquent. Et Jésus a été jusqu'au bout. Il ne s'est pas laissé gagner par je ne sais quoi, par le doute, est-ce que je fais bien ? Tous ces gens qui crient, je suis seul. Et Jésus a enduré le rejet de tous pour nous. Quand il était sur la croix, il a enduré le rejet de tous. Et quand il a pris le péché du monde, de l'humanité sur lui, vous savez ce qu'il a crié, Jésus ? Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Au sujet du rejet, tout est accompli. Jésus l'a endossé parfaitement. Dans Deutéronome 30, au verset 19, il nous est dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. » Et on peut traduire aussi ce passage par « J'ai mis devant toi la vérité ou le mensonge. » Et c'est par le mensonge que la mort arrive, qu'elle se fraye un chemin. C'est tout petit, un mensonge. C'est rien, c'est un tout petit mensonge, comme un tout petit virus. Et on sait les dégâts que ça peut faire. Donc c'est pour ça que vous, enfants de Dieu, prenez le sérieux de regarder, de lire la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est dit, Seigneur ? Je ne vais pas le comprendre avec ma tête. Je vais comprendre avec mon cœur, Seigneur. Qu'est-ce que tu me dis pour moi ? Ces paroles qui sont des paroles de vie, je veux qu'elles pénètrent dans mon cœur, qu'elles guérissent tout ce qui a été cassé. Et donc, au centenier, Jésus... Je ne sais pas si vous vous rappelez, le centenier qui était venu pour demander la guérison de son serviteur, Jésus dit, il sera fait selon ta foi. Il sera fait selon ta foi. Si tu crois un mensonge, tu bâtis sur le mensonge. Si tu crois la vérité, tu bâtis sur la vérité. Il sera fait selon ta foi. Alors Seigneur, je veux confronter ce que je crois à ce qui est ta vérité à toi. Ton esprit de vérité vienne dans mon cœur, dans nos cœurs. Et comprendre toute l'œuvre parfaite de la croix. Cette nouvelle identité que tu m'as donnée en toi, Seigneur. J'ai une identité en Christ. Vous avez une nouvelle identité en Christ. Une acceptation inconditionnelle. Et l'esprit d'adoption qui crie « Abba, Père, je te reconnais comme mon papa. » Amen. Et donc le rejet, il y a quelques conséquences, brièvement. Alors j'ai pris l'image du hérisson. Vous aimez ce petit animal ? Il est sympathique, hein ? Il est sympathique, mais il pique. Hein. c'est un exemple, quelquefois, de notre comportement. Il est si mignon, mais peut-être qu'il ne sait pas. Il est si utile dans nos jardins et dans toute la nature. Mais il ne sait peut-être pas non plus. Quoi. Pourquoi il se met en boule avec ses piquants quand on l'approche ? Donc, quelquefois, c'est notre position de... On s'approche de nous. Oh ! Doucement, garde tes distances. Il hein. y a de la crainte et puis il y a de la fuite. Hein. Et du repli sur soi. Tout ça, ce sont des traces du rejet. Hein. Et Soyez libres. Hein, j'ai connu des choses comme ça. Je peux encore... connaître des comportements, il n'y a pas de jugement contre les uns ou les autres, mais seulement de reconnaître qu'on puisse agir comme ça. Alors il y a quelque chose que j'ai connu malheureusement aussi, c'est la rébellion vis-à-vis du rejet. Eh bien, je vais leur montrer. Ah, ils ne veulent pas m'accepter, je vais leur montrer. Et j'ai corrigé un péché, on va dire, par un autre péché. C'est la folie de l'homme, c'est la folie de... Ben forcément du péché qui nous a envahis. Et donc là, prendre sa revanche avec des comportements iniques, qui sont aussi hein, pour se faire aimer, pour se faire respecter, pour obtenir de l'acceptation, de la reconnaissance. Et puis il y a toutes ces mauvaises paroles qui sont les... On se dénigre, on s'apitoie sur soi. La pitié de soi. Comprenez-moi, hein, c'est pas... Il y a des choses qui sont vraies, mais... On doit chercher quelles sont véritablement les choses. L'apitoiement excessif, c'est un mensonge. C'est comme le hérisson qui se met en boule et ne me touchez pas. Je suis indigne. On prononce ces paroles de dire ben non mais moi je suis rien quoi. Alors quand c'est de la fausse modestie, je dirais c'est pas mieux quoi. Parce que c'est pareil, on doit reconnaître ce qu'on est. Point, sans orgueil, mais sans fausse modestie. Qui va nous guérir. Alléluia. C'est le plus intéressant maintenant. Connaître le cœur du Père. Et puis là, il est parlé de berger aussi, Daniel. Le bon berger. Donc, le passage de Jean 10, donc de 9 à 15. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Il trouvera de quoi se nourrir. Il trouvera de quoi se nourrir. Avec Jésus, on trouve de quoi se nourrir. Alléluia. Le voleur ne vient que pour voler. C'est ce que je vous ai dit. Égorger et détruire. Si vous étiez ignorant du plan de l'ennemi, ben là vous l'avez. Voler, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Dieu est un Dieu d'abondance. Il ne compte pas ses sous. Amen. C'est un Père prodigue qui donne libéralement. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oh, amen. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Relation. Intimité, cœur à cœur. Alléluia. C'est tout ça qu'il est venu faire, le Seigneur Jésus. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Le projet parfait de notre réconciliation avec Dieu. Et Jean 17, 21, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Que eux soient un en nous. Amen. Que cette réalité spirituelle, elle prenne vraiment toute son importance en nous. Que nous soyons en cœur à cœur avec le Seigneur. Parce que c'est ce qu'il a prévu. Vous pouvez vous rappeler tous les rejetés que Jésus a accueillis, qu'il a visités. Les lépreux qui devaient se cacher. En tout cas, ils n'avaient pas le droit de venir dans la population. Ils étaient à part, en quarantaine. Les publicains, ces voleurs. Les prostituées, les adultères. Le malfaiteur sur la croix. Tous des pécheurs. Tous des rejetés. Et c'est criant comme ces personnes qui étaient rejetées par les pharisiens, bien sûr, mais Jésus n'a pas eu peur d'aller les voir. C'est rejeté. Donc le Père prodigue, lui aussi, dépense sans compter. Il est merveilleux, ce papa. Bien sûr, quand Jésus parle du Père, c'est son Père qui parle. Et au verset 12, le Père leur partagea alors ses biens. Je me dis, mais est-ce qu'il a gardé quelque chose? Il a partagé ses biens. Ce n'est pas dit tous ses biens, mais peut-être qu'il n'a rien gardé. Je ne sais pas. Verset 20, il se leva et alla vers son père. Donc là, c'est le jeune fils qui retourne. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. J'ai repris la version second, là. Rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et souvent, je crois que le papa, j'allais dire, est-ce qu'il était inconsolable? Je ne sais pas. Mais il était devant sa maison, je ne sais pas, sur une colline, et il guettait si son fils allait revenir. Notre papa nous cherche. Il nous attend qu'on revienne. Il veut se jeter. C'est lui qui fait le premier pas, qui se jette à notre cou. Ensuite, verset 28, le fils aîné se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Là, c'est encore le papa qui fait le premier pas. Et quand il lui dit, verset 31, « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Ça, c'est une parole qui est pour moi et qui est pour beaucoup d'entre nous. « Mon enfant, mon fils, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Nous, les enfants du Père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Amen. Et guérir du rejet, ben ça suppose encore l'action extraordinaire du pardon. Et donc, au verset 17, toujours de Luc 15, à un moment donné, il faut s'arrêter et faire le point. Alors, il fait un retour sur lui-même, donc le jeune fils, et se met à réfléchir à sa situation. Il se dit, tous les travailleurs agricoles de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi ici, je suis ici à mourir de faim. Il a pris courage, il a reconnu son péché et il s'est levé. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché envers Dieu et envers toi. Ça suppose de s'examiner, c'est certain, honnêtement, et de dire, effectivement, j'ai péché contre le Seigneur et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se met donc en route pour se rendre chez son père. Et donc là, il demande pardon. Je demande pardon pour ce que j'ai fait. Je pardonne précisément ce qu'on m'a fait et ce qui m'a offensé aussi. Quand vous faites ça, soyez précis. Et ça peut prendre du temps. Sur le rejet, ça peut prendre du temps parce qu'il y a des choses qui peuvent remonter, puis ça peut prendre des mois, ça peut prendre peut-être des années, j'en sais rien du tout. Mais à chaque fois, soyez honnête et pardonnez, demandez pardon au Seigneur d'avoir cru souvent des mensonges, d'avoir donné une proportion énorme à un petit mensonge, un tout petit mensonge. Et puis de s'être révolté. C'est le pardon qui guérit toutes ces traces de rejet. Si vous restez enchaîné avec la condamnation que des hommes, des femmes ont mis sur vous, vous êtes enchaîné, vous n'êtes pas libre. Le pardon, c'est celui qui nous libère. Je pardonne à mes offenseurs.
je pardonne de tout mon cœur. Seigneur, reçois ce pardon. Je leur pardonne et je prends la liberté que tu m'as donnée. Amen. Alors, la couverture de survie, j'ai eu cette image, je ne savais pas du tout où je... Et c'est en terminant le message, j'ai dit, ah mais c'est là qu'il faut la mettre. C'est étonnant. Bon, quand on prépare un message, ben, on demande vraiment l'aide du Seigneur. Et il y avait cette image, je ne savais pas à quoi elle correspondait. Et c'était une pièce du puzzle qui était par terre, et puis elle a trouvé sa place. Donc la couverture de survie ou la couverture de Dieu. La couverture de survie, vous savez ce que c'est. C'est lors d'un accident, par exemple, on va recouvrir un blessé pour qu'il ne prenne pas froid. C'est une couverture qui est juste pour un temps, qui est juste pour éviter oui, que la personne prenne froid, qu'elle se réchauffe. Et donc, elle est pour un temps très court, un temps provisoire. Et peut-être on a gardé la couverture de survie au lieu de prendre la couverture de Dieu. Couverture de survie, bah c'est juste un encouragement, et ça m'a fait du bien, etc. Parce que vous êtes confié à un ami. Mais ça n'a pas été jusqu'au bout. La couverture de Dieu, c'est vraiment de se remettre en plein, entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui nous a acceptés de manière inconditionnelle, jusqu'au bout, quelles que soient nos vies précédentes. Et peut-être, on peut encore, comme cette femme, se dire, bah, j'ai échappé à la mort. Et peut-être, ce matin, vous vous dites ça, j'ai échappé à la mort. Je suis ici parce que c'est sûr, j'allais à la mort éternelle. Mais vous êtes resté avec ça. Le Seigneur, veut beaucoup plus que ça. Il veut vous faire rentrer dans une vie d'abondance. Il veut que vos chaînes elles soient coupées. S'il y en a une centaine, mais peu importe. À chaque fois, le pardon est efficace. Reconnaître ce qui s'est passé. Et à chaque fois, le pardon est efficace pour couper ces chaînes, pour libérer les captifs. Et reconnaître qu'on a fait fausse route. On s'est arrêté aux offenses reçues, les vraies comme les fausses, tout ce qu'on a cru. Alors aujourd'hui, ton Père, ton Dieu de tout amour, se jette à ton cou pour te dire « rentre à la maison ». Tu étais mort, tu es revenu à la vie. Et il demande à son serviteur « allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui ». Enlevez la couverture de survie. Mettez le plus beau des habits à mon enfant. Passez-lui une bague au doigt. Et chaussez-le de sandales. La robe de justice où il n'y a plus aucune tache. La bague qui signifie notre nouvelle identité. Celle qui représente notre identité d'enfant de Dieu. Alléluia. Voilà, j'ai fini. Je crois, je suis sûr que le Seigneur a parlé au cœur de certains. Et d'une façon ou d'une autre, ce n'est pas moi qui suis dans vos cœurs. Et on va prier que le Seigneur continue d'aller dans les profondeurs de votre cœur. Pour tout, que tout ce qui est mensonge au sujet de l'amour de Dieu, de l'amour parfait, inconditionnel de Dieu s'installe profondément dans votre cœur et que votre vie soit une vie d'abondance. Des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Amen. Seigneur, nous croyons de tout notre cœur que tu es ce Père prodigue. Tu ne comptes pas, Seigneur, ta grâce. Ta grâce, elle est abondante. elle peut remplir chacun de nos cœurs. Tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, toutes les guérisons dont nous avons besoin, Seigneur, tu y as pourvu, Seigneur. Seigneur, je veux libérer en ton nom, Seigneur, encore la grâce de ton pardon, la grâce de ton amour inconditionnel sur les vies ce matin, afin que chacun et chacune puisse rentrer, se mettre sous ta couverture, Seigneur, ta couverture abondante, ta couverture qui pourvoit tous les besoins. Oui, Seigneur, merci, parce que tu as guéri nos cœurs. Merci parce que c'est une œuvre qui est en cours et qui va aller jusqu'au bout. Je te loue, Seigneur, de ce que ton bras est tout puissant pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.